Note à l'auditeur. Cet épisode comporte un vocabulaire et du contenu réservé aux adultes et pourrait ne pas convenir à certains auditeurs sensibles.
Début 2015, alors que Benita Alexander était complètement amoureuse, un autre journaliste commençait à s'intéresser à l'histoire de Macchiarini.
Mon chef m'a suggéré de lire une allégation sur un certain chirurgien du principal hôpital universitaire de Suède.
Bussa Lindqvist était un journaliste important en Suède depuis des décennies. Il est chauve, avec une barbe grise et des yeux bleu clair. Il correspond à l'image du journaliste acharné d'un thriller noir scandinave. Bussa a lu la plainte que son patron lui a remise sur la façon dont Paolo aurait commis une faute scientifique. Les détails de cette allégation étaient difficiles à suivre.
Il y a 60 pages, je ne comprends pas la terminologie, c'est une perte de temps.
Lorsqu'il a fini par comprendre les allégations des sonneurs d'alerte, il était sceptique. Il lui semblait peu probable qu'une chose aussi grave ait pu se produire dans une institution aussi prestigieuse que Karolinska. Mais il était curieux. Pourquoi des médecins risqueraient leur carrière si ce n'était pas vrai?
Alors, je me suis dit, bon, OK, quelqu'un a forcément tort ici, c'est clair, mais je ne sais pas qui c'est.
Bussa a appelé Paolo et ils ont convenu de se rencontrer à son laboratoire pour une entrevue. Paolo l'a accueilli. C'était une pièce étroite avec des étagères remplies de béchères et de flacons avec des organes de rats à l'intérieur. Paolo était, comme à son habitude, à la fois doux et réfléchi dans sa manière d'être. Pourtant, il y avait à la fois quelque chose de presque tape à l'œil chez lui.
Il avait ce côté rockstar. Il y avait une sorte d'aura internationale autour de lui. Et il était sur le point de faire une percée majeure.
Paolo a commencé la conversation en établissant des règles de base.
Immédiatement, Paolo a fait savoir qu'il ne voulait pas parler de sa vie privée. Rien sur son éducation, rien sur son école, rien sur ses parents et rien sur sa vie sentimentale. Tout ça ne devait pas faire partie de notre conversation. Et au début, je me suis dit que c'était un peu étrange. La plupart des gens parlent au moins de leur scolarité. Mais bon, pourquoi pas? Il a droit à sa vie privée. On est ici pour parler de greffe et de médecine. Il voulait conserver son jardin secret, c'est correct.
Puis, il a été question de l'avenir de la médecine.
Il a expliqué que la chirurgie traditionnelle était une sorte d'activité primitive, où on fait des entailles dans les gens, où on cause des dégâts en même temps qu'on les soigne. Alors, sa vision était d'en arriver à éviter tout ça.
Paolo a partagé sa vision, à savoir l'utilisation de cellules souches pour régénérer ou réparer les organes du corps.
C'était une idée incroyable que je n'aurais jamais pu imaginer. Et si elle pouvait se concrétiser, ce serait une innovation fantastique.
Dans le passé, Bussa avait rencontré son lot de sommités médicales dans le cadre d'autres projets. Oliver Sacks, Robert Gallo, qui avait co-découvert le VIH, Carlton Gajusek, qui avait aidé à découvrir la maladie de la vache folle. Ce que faisait Paolo Macchiarini était, si c'était vrai, tout aussi incroyable que ces découvertes-là.
Je voulais creuser un peu plus dans cette histoire-là et voir qui avait tort, ce qui s'était réellement passé. Est-ce que Paolo était un génie ou est-ce qu'il était un méchant?
Peu après, Bussa est allé recueillir l'autre version de l'histoire. Il a contacté chacun des médecins qui avaient porté des accusations contre Paolo.
Au début, ils ne voulaient pas me parler. Ils avaient peur. Ils étaient suspicieux et craintifs.
Finalement, l'un d'entre eux a accepté de le rencontrer. Une journée froide de février, Bussa passait la porte d'un immeuble du centre de Stockholm. Le docteur Mathias Corbaccio l'a fait entrer, il a pris l'ascenseur jusqu'à son appartement et a sonné. Fidèle à lui-même, l'Américain de 1m80 portait un T-shirt Black Sabbath. Il a invité Bussa à entrer dans l'appartement et lui a raconté tout ce qu'il avait appris.
Il a eu beaucoup de mal à croire ce que je disais.
Corbaccio faisait des comparaisons plutôt alarmistes.
Et j'ai commencé à lui raconter des histoires sur Joseph Mengele et Auschwitz, les expériences médicales et ce qui se passait à Karolinska.
J'avais l'impression qu'ils étaient paranoïaques, qu'ils avaient peur, qu'ils amplifiaient des choses qui n'existaient peut-être même pas. J'ai pensé que leurs revendications étaient un peu farfelues.
Nous avons parlé pendant 2 heures, puis ma femme est rentrée à la maison. C'est une Suédoise blonde qui s'habille bien et qui ressemble à quelqu'un de normal. Il lui a demandé si tout ça était vrai. Elle a dit oui. Oui, tout ça est vrai. C'est exactement ce qui se passe. Et il a dit qu'après l'avoir rencontré, c'est à ce moment-là qu'il a commencé à me croire.
Tout comme Benita Alexander à New York, Bussa Lindqvist a décidé de faire toute la lumière sur le mystère Paolo Macchiarini.
J'ai fini par réaliser que tout ce qu'il disait était vrai, mais ça a pris beaucoup de temps.
Pour Wondery, je suis Anne-Sophie Roy et vous écoutez le Docteur Lamort, l'homme miracle. Épisode 5, le grand sabbat. Lorsque Bussa Lindqvist a rencontré le docteur Corbaccio pour la première fois, lui et les autres lanceurs d'alerte étaient au plus bas. C'était en février 2015, plus de 6 mois s'étaient écoulés depuis qu'ils avaient envoyé leur première plainte concernant Paolo. La réponse avait été que les dirigeants ont envisagé de les congédier, mais ils ne l'ont pas fait. Du moins, pas encore.
En fait, ils avaient fouillé dans nos courriels un certain nombre de fois à l'hôpital. Ils essayaient juste de trouver ce qu'ils pouvaient pour nous congédier. Ils vont tout faire pour vous castrer.
Corbaccio était pessimiste de nature, cassant, sarcastique. Là, il était rendu découragé. Ses recherches sauvaient des vies, plus rien n'avait d'importance.
J'ai appris tellement de choses sur la façon de financer les recherches, sur qui obtient les fonds et comment les choses fonctionnent dans cet institut prestigieux-là. Je pense pas que ça en vaille la peine. Je préfère passer mon temps libre à faire du sport ou à lire un livre. C'est juste stupide de faire des recherches sur les maladies cardiaques ou le tabagisme quand vous savez que notre civilisation n'a peut-être que 30 ans à vivre.
Ça affectait aussi sa vie de famille.
Tous les jours, je devais partir au combat. Et tous les jours, je devais rentrer à la maison, plein de sang et de boue, et essayer d'être un père et un mari. Je veux dire, c'était pas du style « Hey chérie, allons au Bahamas pour une semaine ». Ça se passait pas du tout comme ça. Ça a dû être difficile pour elle. Elle m'a soutenu pendant tout le processus. Mais ça, ça a vraiment éclipsé tout le reste.
Entre-temps, Bussa Lindqvist avait obtenu le feu vert de Paolo pour le suivre dans son périple à travers le monde. Comme Benita l'avait fait pour son documentaire à NBC quelques années plus tôt, Bussa a filmé Paolo au travail et a rencontré son équipe. Il a visité son labo en Russie. Alors qu'il pensait encore que Paolo pouvait être le faiseur de miracles que tout le monde disait qu'il était, il essayait aussi de comprendre les allégations contre lui. Bussa a lu tout ce qu'il pouvait sur Paolo. Il a regardé les reportages sur lui. Il a trouvé un film allemand sur les recherches de Paolo qui montrait l'opération réussie d'une ancienne danseuse nommée Julia. Et bien sûr, il a regardé le documentaire de Benita.
C'était très bien produit, c'était captivant et ça montrait un certain nombre des patients de Paolo. Il y avait aussi quelques doutes dans la production de Leap of Faith. Je veux dire qu'ils ont posé des questions difficiles aux médecins qui travaillaient avec Paolo. Et à Paolo lui-même.
Vous avez entendu les critiques selon lesquelles vous prenez un risque bien réel avec ces patients et qu'il faudrait multiplier les essais cliniques et que vous ne devriez pas, comme ils le disent, expérimenter sur les humains. Qu'est-ce que vous répondez à ça?
If there is one chance, you need to take this chance.
S'il y a une chance, vous devez la saisir. Donc, soit il meurt, soit on essaie de faire quelque chose, même si c'est nouveau.
Mais bien sûr, au final, on retenait que c'était un gars qui essayait de sauver l'humanité.
À ce stade, il y avait eu au moins 8 implants de trachée biosynthétique. Le docteur Corbaccio et les autres avaient tiré la sonnette d'alarme à propos de 3 de ces opérations-là, celles qui avaient eu lieu à Karolinska. Yeshim Setir, André Mariam Beyen et un homme nommé Christopher Lyles qui était également décédé. Le documentaire de Benita, A Leap of Faith, avait montré que la petite Anna Warren, âgée de 2 ans, n'avait pas survécu non plus. Mais il ne prétendait pas que Paolo avait fait quelque chose de mal. Dans le film, c'était présenté comme un risque calculé, le genre de sacrifice qui accompagne souvent les opérations expérimentales et audacieuses.
Ses défenseurs affirment qu'il est essentiel d'essayer de nouvelles choses pour faire avancer la médecine.
Quand Tom Starr a commencé à faire des greffes de foie, les 7, 8 ou 9 premiers patients sont tous morts. Tout le monde disait qu'il était fou. OK, est-ce qu'il l'était? Quand Christian Bernard a commencé à faire des greffes de cœur, tout le monde lui a jeté des pierres. C'est comme ça qu'on va soigner les maladies dans le futur. Et c'est seulement le début.
Boussa a réalisé qu'il fallait qu'il fasse des recherches sur d'autres patients pour obtenir les réponses dont il avait besoin sur Paolo. Comment ils allaient?
J'ai fait une recherche rapide sur Google et j'ai réalisé qu'il avait eu des patients en Suède, évidemment. Mais il avait aussi des patients en Russie, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Italie, en Espagne, dans le monde entier. Donc, ce que j'avais à faire, c'était de chercher dans le monde entier.
Sa recherche l'a conduit à une jeune patiente en Russie qui avait été présentée dans le documentaire allemand, une jeune mère nommée Yulia Tulik, qui était la première patiente de Paolo à recevoir une trachée biosynthétique pour une ancienne blessure. Le documentaire avait présenté son opération comme un succès.
Alors j'ai pensé, waouh, la Russie, c'est vraiment proche de la Suède, donc allons la trouver.
Il a demandé à un collègue parlant russe de l'aider à retrouver Yulia.
Et il a été très vite. En une semaine, il avait retrouvé la mère de la patiente russe de Paolo et il avait eu une conversation avec elle. La mère voulait parler, tout allait bien. Il y avait juste un problème. Si on voulait parler à sa fille, il faudrait trouver une ligne directe avec l'au-delà parce qu'elle était décédée.
Yulia était morte 6 mois plus tôt. Boussa a rencontré la mère de Yulia à Saint-Pétersbourg, en Russie. C'était une femme corpulente, aux cheveux noirs courts, avec le regard dur d'une mère qui a perdu son enfant.
Et son histoire était très différente de l'histoire de réussite racontée dans le documentaire allemand.
Yulia était une femme de 33 ans en bonne santé, une ancienne danseuse qui avait endommagé sa trachée dans un accident de la route. Pour respirer, on lui a inséré un tube dans son cou à travers un trou juste au-dessus de sa cage thoracique.
Elle voulait retrouver son ancienne vie de belle et jeune danseuse professionnelle. Et Paolo avait dit qu'il arrangerait ça en remplaçant sa trachée endommagée par une trachée en plastique.
Yulia avait été sélectionnée pour l'opération en partie grâce à la présentation d'une vidéo où elle expliquait comment elle pourrait en bénéficier. Elle a décrit comment sa blessure l'avait empêchée d'être une mère normale et comment elle n'avait jamais pu chanter pour son fils. Les problèmes de Yulia ont commencé presque immédiatement après l'opération de Paolo. Des difficultés à respirer, de la fièvre, des quintes de toux qui duraient des heures. Sa mère a dit à Boussa que sa fille sentait la viande avariée. Elle a dû faire remplacer sa greffe, a souffert d'infections constantes et elle a lentement suffoqué jusqu'à en mourir. Avant sa greffe, Yulia aurait pu vivre pendant des décennies, mais après l'opération, elle n'a vécu que 2 ans. C'était si différent de ce qui avait été décrit dans le documentaire que Boussa n'arrivait pas à y croire. Peut-être que dans son chagrin, sa mère exagérait.
C'était clair que la mère de Yulia n'avait pas de formation médicale. Elle était la mère d'un patient. Alors comment je pouvais être sûr qu'elle avait vraiment compris ce qui s'était passé? Je pouvais pas.
Boussa s'est mis à la recherche du dossier médical de Yulia, qui a en effet confirmé la version de sa mère sur ce qui s'était passé. Puis, il a cherché les dossiers médicaux des autres patients de Paolo. Chaque dossier sur lequel il mettait la main racontait une histoire similaire. Le docteur Maccherini avait inséré ses trachées en plastique même quand il y avait des signes clairs que c'était dangereux, un dispositif en plastique qui a fait plus de mal que de bien à ses patients. Boussa a continué à travailler sur son documentaire pendant l'année 2015, parfois en suivant Paolo avec des caméras, d'autres fois en retrouvant des proches d'anciens patients qui lui partageaient le côté sombre de l'histoire. Pendant que Boussa travaillait, le docteur Corbaccio et les autres médecins lanceurs d'alerte de Karolinska s'impatientaient. Ils espéraient que le documentaire de Boussa leur donnerait raison.
On était rendu au point où on voulait le suspendre de mon balcon pour le forcer à travailler plus vite. On ne l'a pas fait, mais on lui en a parlé. Mais c'était très frustrant parce que ça lui a pris 1 an et on se disait, c'est quoi le problème? Quand est-ce que ton maudit documentaire va sortir? Qu'est-ce que tu fais?
And he said, well, you know...
Bah ça, c'est un gars très diplomatique. Il a dit, ah, je dois vérifier ça, et blablabla, bla, bla, et je dois faire ci, et ça. Et on disait, mon gars, tout est là. Qu'est-ce que tu fais? Ce qui fait qu'il y avait beaucoup de frustration de notre côté à l'égard de Bossa, parce qu'on avait l'impression qu'il n'avançait pas assez vite.
Le documentaire de Boussa n'était pas la seule enquête sur Paolo qui avançait lentement. L'enquête externe que Karolinska avait lancée après le premier article du New York Times traînait aussi. Et la vie n'était pas plus facile pour les quatre médecins Karolinska. Ils étaient toujours malmenés à l'hôpital. Pour le docteur Simonson,
j'étais de garde pendant parfois 5 jours d'affilée. Et ensuite, j'étais à l'hôpital pendant 5 jours et 5 nuits. Ce genre de situation-là vous arrive pour une raison. C'est qu'ils veulent que vous fassiez une erreur et ensuite ils essaient de vous faire payer pour cette erreur-là.
Et pour le docteur Grinemo,
à chaque instant de la journée, je pensais à ça. Je n'étais pas là même si j'étais physiquement présent. Je n'étais pas là mentalement pendant une bonne période.
Ils étaient toujours traités comme des parias.
Karolinska mentionnait nos noms d'une manière très, très critique. Ils avaient un mandat important à l'époque et les gens leur faisaient confiance. Et ils disaient qu'on était juste des chercheurs jaloux et qu'on n'avait pas autant de succès que Paolo et que c'était juste un conflit.
Un jour, alors que le monteur de Boussa montait les séquences qu'ils avaient recueillies, ils ont découvert quelque chose de troublant.
Je suis allé dans la salle de montage et j'ai commencé à regarder cette séquence-là.
Le monteur de Boussa l'avait trouvé dans les enregistrements bruts de l'équipe de tournage allemande.
Hi David.
Les images datent de mars 2012, un an avant l'opération de Paolo sur Anna Warren. Il est sur une plage près de Barcelone et il est au téléphone avec quelqu'un. Et son micro est allumé.
The scaffold dry.
En gros, ce qui s'est passé, c'est que c'était trop sec. C'est la raison pour laquelle ça n'allait pas quand je l'ai touché. C'était comme le matériel post-PCU qu'on a greffé à M. Bayen. Je suis pas très content parce que soit on sait exactement ce qui se passe. Écoute, 7 personnes dans mon laboratoire ont travaillé 24 heures sur 24 pendant les 3 dernières semaines sur la biocompatibilité. Et là, c'est la merde. Donc, je crois qu'on devrait tout recommencer. Et on a perdu 2 semaines en faisant ça.
Au début, Boussa ne comprenait pas ce que Paolo disait. Mais après avoir reconstitué le casse-tête à partir d'entrevues et de rapports, il a finalement compris ce que Paolo disait pendant cet extrait de conversation à Barcelone.
Et ce qui est extraordinaire, c'est que Paolo a effectivement admis que sa méthode ne fonctionnait pas, qu'elle n'était pas complètement développée, et puis aussi qu'il le savait très bien. Et ce qui est surprenant, c'est qu'il a admis ça en avril ou en mai 2012, ce qui signifie qu'il avait déjà greffé des trachées à des patients. Premièrement, cet Américain qui était mort en partie à cause de sa trachée défectueuse, et puis ce patient en Suède qui souffrait vraiment beaucoup.
Ils ont repassé le clip en boucle.
C'était glaçant parce que tout d'un coup, Paolo confirmait mes pires craintes. On a repassé la séquence de nombreuses fois, on l'a reculé de nombreuses fois pendant toute la période de production, parce qu'il était très important de ne pas se méprendre sur ce qui se passait dans la séquence. En fait, il admettait qu'il savait qu'il insérait de sang-froid quelque chose qui ne fonctionnait pas dans des corps humains.
Pour Boussa, c'était un moment déterminant.
Ça a certainement changé mon point de vue. Lorsque j'ai rencontré Paolo pour la première fois, ma façon de voir les choses initialement était qu'il était sans doute un génie. Il était peut-être un inventeur bienveillant qui essayait réellement d'aider l'humanité. Et puis lentement, j'ai dû revoir peu à peu mon impression initiale. Et la séquence vidéo a constitué une étape majeure dans ma réévaluation générale de Paolo Macchiarini.
Boussin n'avait pas encore partagé avec qui que ce soit sa découverte. Le documentaire n'était pas fini. Puis, en août 2015, alors que Boussa avait travaillé presque un an sur le projet, Karolinska a annoncé que son enquête externe sur le médecin était terminée. Ils étaient enfin prêts à annoncer leur décision sur ce que Paolo avait fait de mal. Quelques jours avant que Karolinska annonce ses conclusions, les quatre médecins, Corbaccio, Dr Thomas Fuchs, Dr Carl Grinimo et Dr Oscar Simonson, ont demandé la permission d'assister à l'annonce.
Ils ont répondu qu'ils allaient appeler notre patron et faire appel aux gardes pour nous tenir à l'écart.
Pourquoi vous n'avez pas été autorisé à y aller?
Parce qu'ils ne voulaient pas avoir de position pendant cette réunion-là.
Les patrons avaient décidé que seule la presse serait autorisée à y assister, ils ont donc été tenus à l'écart. Quatre hauts responsables menés par le vice-chancelier en costume gris à rayures sont entrés dans un amphithéâtre pour présenter les conclusions. L'Institut avait engagé un enquêteur externe pour mener l'investigation.
Ils étaient parvenus à des conclusions dévastatrices qui affirmaient clairement qu'il y avait eu falsification. Les patients sont morts d'une manière qui devrait être investiguée. Les décès pourraient avoir été causés par les interventions, etc. Je n'avais pas tous les faits ou toutes les preuves, mais il était clair que quelque chose avait vraiment, vraiment mal tourné. Et il était clair que les faits commençaient à sortir au grand jour. Je veux dire, même la propre enquête de l'Institut Karolinska avait montré ça.
Entre les conclusions de l'Institut et les résultats de ses propres recherches, Boussa a supposé qu'une déclaration de culpabilité était à venir.
Je pensais que le vice-chancelier, le directeur de l'hôpital universitaire, donnerait une conférence de presse où il dirait que oui, c'est très triste, des erreurs ont été commises, des patients ont souffert.
Mais au lieu de ça,
c'est le contraire qui s'est produit. L'hôpital et l'Institut ont totalement innocenté Paolo Macchiarini. Ils ont dit qu'il avait peut-être été un peu négligent sur des petites choses. Il y avait quelques phrases qui auraient pu être formulées légèrement différemment dans le cadre de cette recherche médicale, mais rien de grave n'avait été fait.
Corbaccio n'en revenait pas.
Je suis incroyablement en colère, frustré et bouleversé, et complètement désillusionné sur une quelconque justice. Et complètement déçu de cette institution-là.
L'Institut a déclaré qu'il s'en tiendrait aux recherches de Paolo et qu'il continuerait à travailler avec lui. Boussa s'est rendu compte que son documentaire était peut-être la seule chose qui permettrait de demander des comptes à Paolo Macchiarini.
Et ça a amené les choses au niveau supérieur. Je veux dire, à ce moment-là, je me suis engagé à révéler ce qui s'était réellement passé. C'est qu'avant, je pensais que si je révélais ce qui s'était passé, j'aurais Paolo Macchiarini contre moi. Mais là, j'avais tout le corps médical suédois contre moi et contre mon équipe.
Lorsque Paolo a été blanchi par Karolinska, il logeait dans un hôtel au centre de Stockholm. Boussa est allé le voir.
On a fait une longue promenade pendant cette fraîche, magnifique matinée d'automne.
Les deux hommes ont traversé Stockholm pour se diriger vers Karolinska.
Il allait avoir une réunion avec le vice-chancelier qui allait définir son destin, voir sa vie future à l'Institut. Et je me souviens qu'il était plein d'espoir. Il a dit que l'Institut allait à nouveau considérer son poste. Il pourrait enfin être titularisé, comme il le souhaitait depuis longtemps, et avoir de nouveaux patients en attente d'une trachée en plastique. Il espérait créer la prochaine trachée en plastique dans quelques mois. Oui, à ce moment-là, je savais que ces chirurgies causaient probablement la mort de ces patients. Quand il m'a dit qu'il avait de nouveaux patients en attente, j'ai réalisé que j'avais peu de temps pour agir. parce que je pouvais évidemment pas le laisser pratiquer une autre intervention sur un patient avec une trachée en plastique sans publier mon travail. Je devais publier avant qu'il fasse ça.
À partir de là, Boussa pensait que la diffusion de son documentaire était devenue une course contre la montre. Il a prévu sa dernière entrevue avec Paolo. Boussa était prêt à le confronter avec toutes les preuves qu'il avait rassemblées.
Il y a eu des tests de trachées en plastique sur des rats ici, à Karolinska, qui ont commencé en août 2012 ou quelque chose comme ça. Est-ce qu'il s'agit du travail que vous avez fait sur des animaux avec vos trachées biosynthétiques?
On a fait des études sur les animaux, des essais précliniques et pas encore publiés sur des rats avec des structures bioartificielles. Et on a commencé avant.
Les études pas publiées?
Oui.
Et c'était à Karolinska ou bien...
C'était à KI, oui.
Au moment même où je l'interviewais, je l'ai confronté au fait qu'il n'avait pas fait de travaux avec ses trachées en plastique sur les animaux avant de commencer ses expérimentations sur les humains. Parce que si vous regardez simplement ce qui a été publié et ce qui a été approuvé pour l'expérimentation, il n'y a que ces deux-là, les expériences sur les rats.
OK. Et donc, qu'est-ce que vous voulez dire?
Parce qu'avant les rats, vous avez mis la structure synthétique sur 5 patients. Et pour moi, ça semble...
Avant les rats, c'est une fausse affirmation.
Et je lui ai raconté comment j'avais parcouru les dossiers médicaux, toutes les recherches que j'avais faites, et j'avais parcouru les registres de laboratoire de l'Institut Karolinska. Il n'y avait tout simplement pas d'autres recherches sur les animaux. Mais si je regarde juste la chronologie, je vois 5 opérations. Pas de rats, pas de porcs, pas d'expérience sur les animaux. Je devrais demander pourquoi, non? Ensuite, il est resté perplexe pendant une fraction de seconde. Il m'a juste regardé dans les yeux sans avoir l'air de savoir quoi dire.
Vous en êtes sûr? Pourquoi vous n'allez pas au lab pour regarder les données, les registres ici ou en Russie? Comment savez-vous qu'on n'a pas fait d'études sur les animaux en Russie?
Et là, il a retrouvé son sourire. C'est à ce moment-là que j'ai vu qu'il tricotait un mensonge sous mes yeux. Je savais qu'il n'y avait pas eu d'expérimentation comme ça en Russie. J'en étais sûr à 100 %. Je voyais le mensonge se fabriquer en temps réel.
Paolo ayant été autorisé à continuer à travailler à l'Institut Karolinska, la pression s'est accrue sur les médecins qui avaient porté les accusations contre lui. Dans une pièce sans fenêtre d'un commissariat de police suédois à Stockholm, le docteur Corbaccio est assis à une table en face de 2 enquêteurs.
Ils ont commencé à m'interroger sur les fuites, sur le rapport, comment le rapport est devenu public et si j'avais fait quelque chose, si je savais quelque chose à ce sujet-là.
Ils ne lui ont pas demandé si Paolo Macchiarini avait été imprudent avec ses patients. Non, ils insistaient pour savoir si Corbaccio était celui qui avait divulgué l'information à la presse.
Et je vais vous dire, vous pouvez penser que vous êtes un dur, mais quand vous êtes assis en face de 2 policiers dans une pièce complètement noire et qu'on vous interroge, vous n'êtes pas aussi fort que vous le pensez.
Corbaccio était tout seul. Il a dit aux autres médecins qu'il avait été convoqué, mais rien de plus.
Je n'ai pas amené d'avocat parce que je pensais que ça aurait été une preuve de ma culpabilité. Et donc, je suis allé là-bas sans rien.
Les 2 enquêteurs ont posé une série de questions.
Comment ce rapport est devenu public? Et si j'avais fait quelque chose? Et si je savais quelque chose à ce sujet-là?
Il a essayé de ne pas paraître nerveux et a gardé une voix calme. Ils lui ont posé des questions de routine et l'ont relâché. Ils lui ont dit qu'il resterait en contact. En quittant le commissariat, Corbaccio s'est senti soulagé et ensuite en colère.
C'est comme un chat qui se ferait jeter du 6e étage jour après jour. Tu sais, les nerfs du chat sont en boule et c'est comme ça que je me sentais. J'étais enragé tout le temps. En fait, à cette époque-là, on était en guerre avec Karolinska et on le savait.
J'ai senti qu'il devenait urgent de le dénoncer le plus vite possible.
De retour à New York, Benita Alexander était prête à publier l'histoire de Paolo.
Je sentais à l'époque que j'étais peut-être la seule personne à avoir eu les informations et les moyens de le faire. Et donc, en janvier 2016, un peu moins de 6 mois après ce qui aurait été censé être la date de notre mariage, Vanity Fair a publié un article qui raconte mon histoire et qui dit au monde entier que Paolo Macarini est un menteur.
Le titre de l'article de Vanity Fair était le suivant. Le chirurgien célèbre qui a utilisé l'amour, l'argent et le pape pour escroquer une productrice de NBC. À Stockholm, le docteur Simonsson sortait de la salle d'opération lorsqu'il a reçu un appel urgent du docteur Corbaccio.
Il a dit « Faut que tu viennes, faut que tu descends dans mon bureau. » Alors je suis allé dans son bureau. Je pense que Khaled était déjà là ou il est arrivé plus tard. Puis après un moment, Thomas est aussi arrivé puis il nous a montré l'article.
Le frère de Corbaccio aux États-Unis lui avait envoyé un lien vers l'article sur Benita et Paolo.
You don't believe this. This is...
On n'y croyait pas, c'était trop beau pour être vrai.
It's too good to be true.
What I didn't know at the time,
ce que je ne savais pas à l'époque, c'est qu'il se passait un certain nombre de choses dans les coulisses en Suède, dans les milieux médicaux et scientifiques. Les gens avaient commencé à poser des questions très, très sérieuses sur Paolo. Il portait des accusations très graves. Cela va au-delà de la faute scientifique. Et donc, quand cet article a été publié, il y a eu des réactions à travers le monde parce que certaines personnes essayaient de dénoncer sa fraude médicale et scientifique. Et puis, ils lisent l'article qui rapporte les mensonges scandaleux. Toute cette histoire-là est tout simplement insensée. Mais elle semble sortir tout droit d'un film. Ça semble même pas crédible. C'est juste fou. Et ça leur fait dire, « Oh mon Dieu, cet homme-là, c'est un fou furieux. »
Oh my God, this man is a crazy fraud.
À suivre dans le prochain épisode de Docteur Lamort, l'homme miracle. Pour Wondery, vous avez écouté l'épisode 5 de 6 de Docteur Lamort, l'homme miracle. L'histoire d'un médecin qui a promis une révolution de la médecine régénérative qui a tourné au cauchemar. Si vous voulez nous aider à faire connaître la série, donnez-nous une note de 5 étoiles et n'oubliez pas d'en parler à vos amis. Écoutez Docteur Lamort sur Apple Podcasts ou sur toute autre plateforme de balado. Également disponible en primeur et sans publicité sur Amazon Music ou en vous abonnant à Wondery Plus sur Apple Podcasts ou sur l'application Wondery. Dans les commentaires de l'épisode, vous trouverez les liens et les offres de nos commanditaires. Merci de les encourager. Docteur Lamort a été écrit, couvert et présenté par Laura Beale. Cette version est présentée par Anne-Sophie Roy. Réalisé par Nika Singh, qui a également couvert cette histoire. Reportage additionnel par Julia Alagna. Vérification des faits par Sonia Maynard. Assistante de production, Fiona Pestana. Directrice de production, Lata Pendia. Supervision musicale, Scott Velasquez. Design sonore, Salt. Nos producteurs exécutifs sont George Lavender, Marshall Louis et Jen Sargent pour Wondery. La version québécoise est réalisée et mixée par Anne-Sophie Carpentier, Philippe Séguin et Bastien Gagnon La France, avec la participation de Joannie Henry, Frédéric Mockel, Dominique Plamondon, Maxime Lacasse et Charles Trahan de Cube Radio.